Vie locale et associative. Culture et société. Politique. Et même du sport. Du lundi au jeudi, le pédalo, la quasi-quotidienne d'infos estivales de Radio Campus Angers.
Ce week-end, à Angers, c'est le grand retour des Accroche-Cœurs. Le festival de théâtre de rue et de festivités artistiques et culturelles en plein air reprend ses droits samedi et dimanche à Angers. On en parle avec l'adjoint à la culture de la ville d'Angers, Nicolas Dufetel, et Marie Driot, programmatrice des Accroche-Cœurs. En deuxième partie d'émission, c'est la rentrée pour Thomas également. Thomas qui nous parlera ce soir des câbles sous-marins qui servent évidemment pour les grandes entreprises de télécom. Ajustez votre gilet de sauvetage, le pédalo lève les voiles.
Le pédalo sur Radio Campus Angers.
Les 9 et 10 septembre à Angers, c'est donc le grand retour des Accroche-Cœurs. Deux jours de festivités à travers la ville, spectacle XXL, proposition plus intimiste également. Et avec nous, pour vous présenter tout ça, chers auditeurs et auditrices de Radio Campus Angers, Marie Driot, programmatrice du festival. Bonsoir.
Bonsoir.
Également à vos côtés, Nicolas Dufetel, adjoint à la culture de la ville d'Angers. Bonsoir.
Bonsoir.
Et je vais augmenter évidemment le volume de votre micro pour que tout le monde vous entende correctement. Les Accroche-Cœurs est connu à travers la France entière et est d'un des plus gros festivals des arts de rue dans l'Hexagone. Mais cette année, attention, stupeur, plus de programmation le vendredi soir. De 3 jours, la programmation n'est plus que sur 2 jours. Qu'est-ce qui s'est passé, Nicolas Dufetel? Pourquoi est-ce qu'un budget d'un événement qui attire près de 250 000 personnes passe de 1 million à 700 000 euros, donc grosso modo un tiers du budget amputé?
Par des contraintes budgétaires, en effet, tout simplement. La nécessité, avec l'augmentation...
Je voulais bien parler dans le micro, s'il vous
avec
plaît.
Avec l'augmentation d'un grand nombre, vous le savez, hein, de l'inflation, du coût des énergies, du coût de l'indice des fonctionnaires, ce qui est une bonne chose pour ceux qui en bénéficient. Mais ça veut dire aussi que les collectivités eh bien, n'ont pas de recettes supplémentaires. Elles doivent dépenser plus, mais en n'ayant pas de recettes supplémentaires, et comme il n'est pas question d'augmenter les impôts, il y a des choix qui sont parfois difficiles à prendre, mais que l'on assume. Et finalement, un petit tiers du budget des Accroche-Cœurs, c'est une soirée. Ce qui donne un petit peu l'image de la complexité aussi et du coût d'un tel événement qui est gratuit, qui repose entièrement sur les subventions de la ville d'Angers. Ça, il faut le redire, auquel on tient énormément. Et face à ces contraintes budgétaires, eh bien, par contre, on n'a pas du tout voulu renoncer. Et de pouvoir offrir de la fête, de la convivialité, de la poésie pendant ce week-end de rentrée. Et croyez-moi, on est assez combattant et combatif avec notre nouvelle programmatrice pour offrir tout cela aux Angevins et aux Angevines.
Est-ce que vous voulez dire par là que une des premières victimes de l'inflation, c'est la culture?
Non, pas du tout. Puisque,
pour autant, c'est l'arbitrage qui a été fait, en l'occurrence.
Mais c'est un arbitrage, vous ne voyez en fait qu'un petit bout de la lorgnette, parce
alors,
qu'en fait, il y a beaucoup d'autres choses. La vie culturelle à Angers, ce sont des théâtres, ce sont des lieux de musique, je pense au Shabada, je pense au Quai, je pense aux théâtres municipaux, je pense aux musées. Et en fait, quand on doit essayer de maintenir justement tout ça pour en plus offrir du nouveau, avec des nouvelles personnes qui arrivent, des nouveaux projet, eh bien, il y a parfois en effet des choix, des décisions à prendre et évidemment, cette contrainte budgétaire, elle a pesé sur la culture, c'est de la sobriété parce qu'encore une fois, on ne veut pas augmenter les impôts, on veut continuer à proposer de la vie à tout le monde, de la gratuité. Je regrette par exemple aussi la région s'est retirée du financement des Accroche-Cœurs il y a déjà 2 années.
Vous en avez parlé avec eux, là, à l'occasion de cette nouvelle édition?
Non, parce qu'ils ont décidé de se retirer et de ne pas revenir, c'est ainsi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aussi, à tous les niveaux de la collectivité, la sobriété, elle s'opère, et pas seulement sur la culture. Vous savez qu'il y a en fait un appel comme ça qui est fait pour que chacun et chacune puisse prendre conscience aussi que l'argent, eh bien, il faut le gérer avec économie, avec bonne conscience et de façon, je l'espère, sage. Mais c'est pas ce qui nous empêche de continuer à travailler à ce que tout le monde puisse faire la fête à Angers.
Est-ce que vous, ça vous attriste en tant qu'adjoint à la culture de la ville d'Angers de voir un événement populaire comme celui-ci amputé de près d'un tiers de son budget?
Oui, ça m'attriste, mais je vais vous dire, c'est aussi un challenge. C'est aussi un défi. Parce que Le défi, c'est, et d'ailleurs ça tombait bien parce que ça correspondait au moment où une nouvelle programmation, une nouvelle programmatrice arrivait, avec des nouvelles équipes. Et finalement, c'est faire avec des nouvelles contraintes quelque chose qui va se maintenir. Et bien sûr, c'est attristant, mais parfois, ce petit coup de fouet, il peut être nécessaire pour redoubler d'énergie, redoubler d'envie, redoubler de gourmandise véritablement pour partager. Vous voyez ce que je veux dire ?
Parce la que gourmandise quand on tient qui va vraiment une fringale, parce que
à quelque chose, qu'on a vraiment envie de se retrouver, surtout sur un événement comme les Accroche-Cœurs qui a plus de 20 ans maintenant, bah c'est aussi un défi de se renouveler et de voir comment on peut parfois faire mieux, en tout cas différent, et je pense mieux, et puis on fera le bilan ensemble de cette opération, parce que j'espère aussi qu'on va parler des spectacles, qu'on
évidemment,
va parler évidemment de tout ce que Marie a programmé, et parfois on peut avoir des bonnes surprises, et j'espère qu'on en aura, et je crois qu'on en aura.
On n'en doute pas, de toute façon c'est le propre des accroche-cœurs d'avoir des surprises, si en plus il n'y a plus le vendredi, en plus il n'y a plus de surprises, alors on est foutu. Non, voilà. Est-ce qu'on pensait peut-être en avoir fini avec vos stupeurs ? Eh bien voici les tremblements, en plus des accroche-cœurs donc amputés du vendredi soir, les voilà également orphelins de leur mascotte, leur maître de cérémonie, Calixte de Nigremont. Vous connaissiez Calixte de Nigremont sûrement, probablement, avant d'arriver, Marie Drillo, pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas reconvié cette année ? Il s'en est attristé sur les réseaux sociaux, ça a fait plutôt grand bruit.
Je connais Calixte pour travailler moi dans d'autres communes et où j'avais justement fait appel à ses services il y a quelques temps de ça. Tout va bien. Après, c'est comme on l'a dit, c'est un tournant. C'est peut-être pas le mot parce qu'un tournant, ça veut dire qu'on reviendra pas sur certains points. Peut-être que finalement, on refera d'autres choix l'année prochaine. En tout cas, pour cette année. C'est une page blanche, une page nouvelle, une page où effectivement il n'y a pas le vendredi soir. Mais alors je vous rassure, pour ceux qui ont très faim, n'ayez pas peur. En termes de densité, on va être pareil, voire plus sur les deux jours qui
restent. Pourquoi ne pas avoir convié de nouveau Calixte de Nigremont ? C'est un choix artistique ?
Pourquoi pas ? Après, on ne peut pas inviter tout le monde non plus. Sincèrement, j'avais pas de oui ou de non. Il n'y avait aucune... ça ne faisait pas partie de...
Nicolas Dufetel ?
Déjà, personne n'est jamais... On connaît le grand talent de Calixte de Nigremont, avec qui, pour l'édition précédente, j'avais échangé. Et on avait eu cette discussion, en effet. Fallait-il ? Mais c'était l'édition précédente, finalement. Avoir toujours la présence de Calixte de Nigremont. Nous en avions parlé pour l'édition 2022.
Parce que lui dit qu'il n'a pas été prévenu. Qu'il l'a appris par votre presse.
Alors, on en avait parlé, justement, sur l'édition précédente, où il était là, en effet.
Lui, il a fait il y a une sénatrices et une créatrice de jeux de société qui fait de lui le père des accroche-cœurs dans un jeu de cette famille.
Je laisse à chacun aussi le soin de vouloir communiquer sur les réseaux sociaux pour faire beaucoup de likes et de choses comme ça. Moi, je préfère voir là, en fait, les dizaines de milliers, de centaines de milliers de personnes qui vont venir aux accroche-cœurs pour vivre ce moment.
Marie Drillo, vous venez d'arriver donc à la programmation artistique des accroche-cœurs. Qu'est-ce que vous avez voulu insuffler de nouveau ? C'est quoi votre patte ? Qu'est-ce qui fait que les accroche-cœurs, vos accroche-cœurs, ne seront pas les mêmes que les accroche-cœurs des années précédentes ? Qu'est-ce que vous allez apporter ? Est-ce que vous allez tout révolutionner ?
Évidemment. Ce qui est bien, il ne faut pas y toucher dans la vie. Il faut juste construire et finir par quelque chose de parfait, si on peut. La programmation, elle est très éclectique. Ça a toujours été le cas, l'est peut-être encore plus parce que ça faisait partie de ma volonté non seulement sur de l'inclusif, ce qui est un cheval de bataille pour moi, sur du très familial avec des spectacles purs enfants, des zones enfants, il n'y a pas de décor à proprement parler comme on l'a connu, moi la première, aux précédentes éditions où j'ai pu venir. On a parlé de sobriété tout à l'heure, donc ça fait partie des choses aussi qui ont été faites, c'est d'offrir des spectacles qui en eux-mêmes sont des décors, des choses très visuelles qu'on peut voir de très loin, parce qu'on sait qu'aux accroche-cœurs c'est compliqué de pouvoir toujours voir bien correctement, donc on a fait le choix de beaucoup de choses aériennes de très grande ampleur pour maximiser en fait un décor sans que ça soit du consommable. En fait, ça fait partie des spectacles.
C'est quoi la ligne éditoriale de cette nouvelle édition des accroche-cœurs, si je peux faire un parallèle journalistique ?
Diversité. diversité culturelle, puisqu'on a des Angevins, on a des régionaux et on a des nationaux, et on a aussi des gens qui viennent du Togo, on a des gens qui vont venir d'Italie. Voilà, c'est une diversité culturelle, une diversité d'approches. Par exemple, La Carrière, qui est angevine, va nous proposer des spectacles avec ses intervenants qui, eux, viennent du Maroc, viennent... Voilà, l'idée, c'est la diversité culturelle et le partage entre artistes à ce niveau-là et avec le public. Diversité, puisque je disais tout à l'heure, du spectacle enfant, du spectacle familial, de l'intimiste, de la grande forme. Il y a une vraie diversité aussi là-dessus. Et puis, diversité, puisque certains spectacles sont en langue des signes et d'autres spectacles mettent en scène, sur scène, des danseurs professionnels, mais porteurs de handicap.
Donc, diversité et éclectisme. Tout sera évidemment ramassé, hein, puisque c'est sur donc deux journées, on en parlait. D'habitude, il y a deux soirées, celle du vendredi et celle du samedi. Et là, on a l'impression que vous aviez voulu mettre les deux soirées en une soirée, ce qui fait que le samedi soir, il y a énormément de choses à voir partout dans Angers. Deux spectacles que vous appelez dans votre programmation des spectacles XXL. On va peut-être les présenter, parce que effectivement, ça a l'air quand même vraiment très impressionnant. On pourra voir notamment des chameaux, des vaches sacrées, des chevaux et pas moins de 5 girafes se balader dans la ville. Alors rassurez-vous, hein, le bien-être animal n'est pas impacté puisque ce ne seront pas des vrais animaux, mais non, bien évidemment. Des sculptures et autres propositions artistiques en tout genre. Donc trois compagnies différentes qui proposeront trois déambulations au départ du quai. Donc du Cal de la Savate, de la Place du Ralliement, mais également sur la Maine.
Tout à fait. Alors rassurez-vous, il y a beaucoup de choses le soir, effectivement, comme on l'a dit. Il n'y a qu'une soirée, mais les gros mangeurs des accroche-cœurs seront servis malgré tout. Et la soirée est découpée, si vous voulez, globalement en deux temps. Le premier, où on a les trois fameuses déambulations, dont vous pouvez choisir, mais vous pouvez aussi les cumuler.
Oui, comment on fait pour cumuler ces trois déambulations?
Alors je vous donne un petit truc, il faut s'approcher de la Maine.
D'accord.
Voilà, l'idée c'est de se positionner plutôt du côté des quais, tout ça. Choisissez votre côté de la Maine aussi, vous pouvez. Alors,
dites-nous
vous pouvez
lequel,
choisir.
Dites-nous lequel.
Ah non, c'est trop personnel, ça dépend. Après, ça
Nicolas
dépend
Dufetel,
aussi de votre...
vous irez de quel côté vous?
Alors moi, j'irai du bon côté, puisqu'il y aura aussi,
côté, non, mais...
et je ne sais pas encore, je vais vous dire pourquoi, parce qu'il y aura aussi un spectacle magnifique sur l'eau. Imaginez une centaine de figurines, en fait, de figures qui, sur des barques, vont évoluer sur notre rivière. Et on ne sait pas encore de quel côté ils vont partir, ça dépendra du vent, ça dépendra des courants. Donc franchement, ça sera un petit peu au dernier moment que je choisirai si j'irai rive gauche ou rive droite.
D'accord, donc guettez évidemment bien les courants. Je vais laisser, s'il vous plaît, remonter juste un tout petit peu le micro pour que vous puissiez bien parler dedans. Donc... sur la Maine.
Donc une première partie de soirée, on va dire ça comme ça, avec les trois déambulations qui vont se rejoindre et faire un final sur la place de la Rochefoucauld.
Place de la Rochefoucauld, ah bah voilà,
là c'est
ça,
le
ça,
grand
c'est
final, on va dire. Là, ça, vous êtes sûr d'avoir vu les trois, si vraiment c'est l'objectif. Et ça faisait partie des choses aussi, en fait, cette diversité, les girafes d'un côté, les machines animales de l'autre et les animaux qui traversent la Maine avec en dessous ces fameuses figurines humaines. C'était cette espèce de parallélisme nature-humanité, mais aussi cette rivière qui ne demande qu'à parler. L'idée, c'était de mettre tout le monde et de traverser ensemble pour aller place de la Rochefoucauld. Et là, ne vous inquiétez pas, on a prévu de vous laisser un temps entre ce final et le début des autres festivités pour que chacun puisse choisir sa deuxième partie de soirée. On reste place de la Rochefoucauld pour le fameux deuxième spectacle XXL, qui est la cinématique des fluides. Soit après, vous voulez être au calme, vous allez promenade Jean Turc, soit vous voulez un peu de lyrisme, et vous allez à ce moment-là au jardin du Musée des Beaux-Arts avec des cantatrices d'opéra façon Jean-Paul Gaultier, complètement décalées, mais avec des prouesses de technique vocale impressionnantes. Des divas, voilà. Soit vous avez envie de faire la fête, de bouger votre corps, et là vous avez deux possibilités. Soit
une
vous allez
boom.
Du la méga boom. Et ça,
là,
voilà,
ça...
pour les boomers tels que moi ou les autres d'ailleurs.
Les boomers, ceux qui aiment faire la boom.
Ceux qui aiment faire la boum et ceux qui ont mon grand âge également. non, voilà, c'est l'idée, c'est de faire la fête. Ça sera du côté de l'espace d'Avier. Et pour ceux qui ont envie de faire la fête. Et en plus d'être costumé, de complètement se sortir du quotidien, vous aurez sur l'esplanade Cœur de Maine une costumerie à votre disposition. Si vous n'avez pas respecté le dress code du week-end, je rappelle que c'est oiseaux et tropiques, n'hésitez pas du coup pour ce fameux bal des oiseaux, tout sera dispo.
On a presque l'impression que pour ce deuxième temps fort, Angers ne sera plus qu'un vaste dance floor où on pourra aller guincher de droite à gauche, que c'est presque plus tout Angers bouge, mais tout Angers danse. C'est ça l'objectif aussi?
Alors, tout Angers danse, oui et non, parce que Promenade Jean Turc, ça va être quelque chose de très calme, au contraire, pour que, vous voyez, l'idée, c'était qu'il y avait donc deux balles, vous avez des divas, vous avez un spectacle grandiose, et vous avez quelque chose de beaucoup plus calme pour revenir justement et se sortir. Bah, des fois, les accroche-cœurs, c'est prenant, la foule et le reste. Donc, si vous avez envie d'avoir une parenthèse enchantée, une parenthèse au calme, allez Promenade Jean Turc.
Nicolas Dufetel, pardon.
Oui, et quand Marie parlait tout à l'heure de cette diversité, c'est celle aussi des atmosphères. Les accroche-cœurs, c'est parfois un éternel retour. Il y a des choses qu'il y avait par le passé qui reviennent. Par exemple, le code vestimentaire avait disparu dernièrement. Bien, il revient en lien avec un spectacle. Et dans la diversité qui a été très bien décrite par Marie, il y a aussi celle des gens pour qui les accroche-cœurs, c'était aussi des choses à voir. Et Marie parlait tout à l'heure des décors. On se souvient des accroche-cœurs. Enfin, certains sont peut-être trop jeunes pour le connaître, parce que en fait, le public des accroche-cœurs s'est beaucoup renouvelé. Et donc, il y a des gens qui n'ont pas les mêmes référentiels et pour qui les référentiels c'est juste 3 ou 4 ans avant. Eh bien, des spectacles feront des corps. Et il y aura des moments de poésie, de contemplation visuelle. L'an dernier, peut-être, vous aviez pu découvrir la Lune, quelque chose de tout à fait presque passif qui avait attiré énormément de monde. Et on a découvert que le public voulait aussi parfois se poser, voulait venir découvrir, voir des belles choses. Et moi, je vous invite, Promenade Jean Turc, à venir vous balader sous ces arbres qui seront une sorte de parcours onirique, un petit peu à la Avatar, d'une certaine façon, avec une comme ça sublimation de l'espace naturel pour se promener, peut-être se reposer, se déconnecter.
Et si la nature de la promenade onirique ne vous convient pas, vous avez une autre nature dans le même temps qui vous est proposée au logis Barreau, c'est le Champ des Coquelicots.
Là, depuis tout à l'heure, on ne parle exclusivement que du samedi soir.
C'est vrai. Il est
18h18 et nous n'avons parlé que du samedi soir. Or, les accroche-cœurs, c'est et samedi et dimanche. Bon, alors, je vous propose qu'on parle également des autres jours, puisque les accroche-cœurs, ce n'est pas encore que le samedi soir, peut-être un jour, si jamais on reste dans les coupes budgétaires. Vous en parliez tout à l'heure, une proposition totalement nouvelle. Ce sont des propositions à l'attention des familles.
Oui, tout à fait. Donc, il y a sur trois zones des jeux qui sont installés pour les enfants. Et sur ces mêmes zones, vous avez des jeux à la fois pour les petits, pour les grands. Et vous avez une de ces trois zones qui, en plus, verra des spectacles dédié enfants, donc avec des contes musicaux, avec un accompagnement pour faire des dessins, avec des food trucks. L'idée, c'est qu'on soit dans une zone ombragée, sécurisée, puisqu'entourée de murs, c'est au musée Jean Lursa, et avec des spectacles pour toute la famille. Donc papa, maman peuvent se détendre, profiter en même temps que leurs enfants.
Et est-ce que je ne suis pas encore parent, et pourtant, j'aime beaucoup dessiner et profiter de ces ateliers ludiques.
Mais
est-ce que je peux quand même venir?
Ah, mais avec grand plaisir.
C'est ouvert à tout le monde.
Bien sûr, c'est ouvert à tout le monde. Après, c'est des zones qui sont dédiées dans le sens où vraiment on sait qu'une famille va y trouver tout ce dont elle a besoin, mais petits et grands, plus on est de fous, plus on rit, au contraire.
Évidemment, les accroche-cœurs, beaucoup de musique également, avec par exemple les transformateurs acoustiques. C'est une bande de 5 hurluberlus qui jouent de la musique grâce à des matériaux de récupération très à la mode. Très à la mode de faire du neuf avec du vieux. Est-ce que vous pourriez un peu nous les présenter?
Alors, ça c'est une des fanfares, effectivement.
Oui, parce qu'elles sont nombreuses, quatre ou cinq.
Oui, c'est ça. Nous avons, je vais les citer, parce qu'il n'y a pas de raison. Donc, il y a effectivement la Saugrenue qui nous vient de Tours. On a les Scrocs qui sont d'Angers, qui vont faire partie notamment de la déambulation du soir. Et puis, on a la Café Fanfare et donc les Récupère-tout, les transformateurs acoustiques dont vous nous avez parlé. J'aime pas trop en dire en général des spectacles, puisque du coup, on influence les gens. Donc, c'est quelque chose que j'aime peu faire. Je vous invite juste à vous promener dans la ville, puisqu'en fait, il y en aura de partout. Et les fanfares dont je viens de vous parler, elles vont parcourir Angers pendant tout le week-end, chacune 3-4 fois. Donc, vous allez forcément en croiser. Et j'ai envie de dire à chacun de se faire son opinion. C'est des styles complètement différents les unes des autres. Et je ne veux pas influencer le public. C'est quelque chose que j'aime pas faire.
Vous disiez, moi c'est quelque chose qui m'a marqué les années précédentes, c'est qu'il y a énormément de monde à Angers, et là vous venez de leur dire, il y en aura partout, plein de monde, mais également plein de propositions artistiques. Nicolas Dufetel, à la mairie, comment est-ce qu'on s'organise pour condenser une programmation qui pourrait tenir sur 3 jours, mais qui là est sur 2 jours? Est-ce que, je suppose que d'un point de vue logistique, pour le bien-être des personnes qui participent aux accroche-cœurs, il y a quand même eu des choses à penser? Ou parce que c'est vrai que là, moi comme ça, je n'aime pas forcément quand il y a trop de monde, ça ne me donne pas très envie.
En fait, les accroche-cœurs, c'est près de 10 mois de travail qui vont crescendo. Par exemple, là, la quarantaine de compagnies sera accompagnée par 70 techniciens. Mais au total, il y a 400 agents de la ville qui sont mobilisés depuis la voirie, fêtes et manifestations, la culture, la police municipale. Donc, j'ai presque envie de dire, et c'est une réalité, Angers n'a pas été la seule ville à réduire son budget sur des festivals d'art de la rue. Il y en a d'autres qui ont supprimé des journées d'ailleurs. Mais parfois, il y a ce qu'on appelle la régie directe ou pas. Et à Angers, on a certes le budget propre, mais en plus, il y a tout le temps de travail des agents qui, lui, n'est pas compté dans le budget. Et vous avez, pendant 10 mois, des services qui travaillent jusqu'à la propreté, jusqu'à la police, qui, dans certains événements, en fait, font partie du budget, qui peuvent être plus importants. Mais vous voyez qu'il y a un peu ce différentiel qui est là. Cependant, la zone qui a été travaillée est assez grande et assez vaste. Et si vous allez avoir des parades, parce que là, vous allez avoir, en fait, ce principe de déambulation et de parades qui font leur grand retour en force aux accroche-cœurs qu'on a eu dans le temps, c'est aussi pour bien gérer les flux de personnes, avec des espaces où il y aura moins de monde, des espaces où il y aura plus de monde, et tout ça va un petit peu bouger. Et puis, vous avez eu raison de parler aussi du dimanche, parce que le dimanche, c'est le temps du pique-nique, c'est le temps aussi de temps conviviaux, parce que les accroche-cœurs, c'est aussi ça.
Non, le pique-nique, il faut vraiment pas le louper.
Ah non, on est bien d'accord.
Vous dites ça, Marie Drio, comme si c'était quelque chose... Vous, comment est-ce que vous avez intégré le pique-nique là-dedans? Parce que c'est un peu un moment un peu hors sol dans les accroche-cœurs. On n'est pas tellement dans la
ligne. Je suis pas forcément d'accord, parce que festival des arts de la rue, pour moi, c'est pique-nique échange, c'est rue, les voisins, c'est la convivialité.
C'est complètement dans la thématique.
C'est bucolique, en fait. Donc finalement, assez logique. Non, j'ai pas eu de problème à l'intégrer, du coup, en fait. Désolée de ma réponse, mais...
Non, vous avez dit ça avec un ton comme si on vous en parle beaucoup, en tout cas, de ce pique-nique.
C'est pas le plus grand sujet, mais c'est vrai qu'on en parle. Après, pour moi, c'est aussi le côté du dimanche, c'est le côté on a fait la fête la veille, on a envie de se retrouver tranquillement. En plus, sincèrement, là, ça va être sous les platanes, en bord de Maine. Je vois pas ce qu'on peut faire de plus bucolique pour un dimanche de septembre par 34 degrés, puisque visiblement c'est ce qui s'annonce. Donc tout le monde sera bien. Il y aura un bal, il y aura des fanfares, il y aura du théâtre de rue qui est aussi un manège, l'Armada du coup qui est en juin. Et l'idée, c'est encore une fois que tout le monde y trouve ce qu'il cherche, ou ce qu'il a même pas su qu'il cherchait, mais en tout cas il y trouve.
C'est ça la magie des accroche-cœurs. Alors pareil, j'avais pas vu ça, ou alors dans mes souvenirs, ou peut-être j'ai mal cherché, mais je crois que c'est la première fois aux accroche-cœurs qu'il y a un tremplin musical. Est-ce que les artistes ont déjà été sélectionnés? Est-ce que moi je peux venir avec mon banjo et ma guimbarde pour faire danser et guincher les angevins et les angevines, ou est-ce que la présélection a déjà été faite? Et si oui, qui sont les artistes?
Alors, ça, je ne vous le dirai pas, mais c'était bien tenté.
Ce qu'on peut dire quand même, c'est quand on disait qu'il y a des mois de préparation, c'est à peu près 130 bénévoles aussi sur les accroche-cœurs qui animent le village des saveurs, qui animent les machines. Et donc, il y a plein de choses sur les projets participatifs qui font l'objet d'appels à participation lancés avant l'été, qui sont relayés par les maisons de quartier, par les pôles territoriaux, par des associations, et qui donc travaillent notre territoire, et puis en fait toute notre ville, pour aller demander à des personnes de participer. Et ça a été le cas pour le tremplin vocal.
Ça a été le cas. On a eu un certain nombre de candidatures. Le jury s'est réuni au mois de juillet, si je ne vous dis pas de bêtises. Et on a acté effectivement une petite dizaine de participants. Vous les découvrirez.
Oui, petite dizaine, parce qu'il y a trois sessions. Il y a trois sessions. Mais...
Oui, parce qu'il y a aussi des histoires plus techniques d'interplateau, changer les instruments, bien sûr, ceci, cela, donc, qui seront à chaque fois rythmés par une fanfare, de façon à ce qu'il n'y ait pas de temps mort. Et puis l'idée, c'était de les mettre sur une place dédié, en plus, sur une place, quelle place, j'ai envie de dire, place du ralliement.
La place,
the place to be. Voilà, l'idée, c'était ça aussi, c'était de mettre à l'honneur les pratiques amateurs. Donc, il y a ce tremplin, mais il y a aussi, alors c'est une autre façon de participer, et là, on en a eu énormément, c'est le karaoké, qui a lieu, lui, le samedi, plutôt dans l'après-midi, où là, c'est pareil, on a eu énormément de candidatures de gens qui ont envie, de vivre un moment de gloire avec leur nom de scène, leur costume, et de chanter comme jamais, j'ai envie de dire.
Peut-être que c'est là où on retrouvera Calix de Nigromont.
Peut-être. Sait-on jamais.
Cette rentrée 2023-2024 est marquée à Angers par, et je vous le donne en mille, vous ne pouvez pas être passé à côté, l'arrivée du tramway, qui a pour objectif d'ouvrir le centre-ville, mais également les espaces périphériques et d'interconnecter les espaces de la ville d'Angers. Je ne crois pas avoir vu dans la programmation des événements qui seraient à Belbeil, à Montplaisir ou à La Roseraie, qui sont maintenant desservis par le tram. Est-ce que c'était un choix de votre part de tout concentrer dans l'hypercentre ? Est-ce que vous avez l'impression que les habitants de Montplaisir, de La Roseraie, de Belbeil vont réussir à venir ? Est-ce que cet effort va être fait ? Ou est-ce que ça aurait pu être un objectif aussi de permettre au festival d'arriver aussi dans ces quartiers maintenant desservis par le tram ? Nicolas Dufetel.
C'est une question d'organisation. On ne peut pas, pour des raisons logistiques de gestion de la voie publique, parce qu'on est dans l'ordre de l'espace public, aller partout. C'est impossible. Et le tram, il permet aussi à tout le monde de venir. C'est exactement ça. Et on voit toute la ville qui se réunit dans les accroche-cœurs, même au-delà de la ville. Il n'y a pas seulement les quartiers d'Angers qui viennent, mais vous savez qu'au-delà d'Angers, le public vient très clairement. Donc en fait, ça permet aussi aux personnes de venir. Mais en fait, on ne peut pas, sur un événement comme ça, aller dans toute la ville. Alors là, ça serait rajouter des millions véritablement de gestion sur l'espace public.
Non, mais c'est vrai que ça aurait pu être l'occasion pour l'arrivée du tramway d'externaliser un peu, je dis ça avec des gros guillemets évidemment, le festival et de l'amener dans la périphérie urbaine angevine.
Alors il y a d'autres événements de la ville qui le font. Il y a Échappé d'art, par exemple, qui, depuis justement 3 ans, propose des expressions d'art visuel, des fresques ou autres, le long du tram et notamment dans les quartiers. Il y a toujours des fresques qui sont réalisées et qui se font d'ailleurs avec un grand nombre de médiations, avec les pôles territoriaux, avec les agents qui sont sur place et avec le public divers et varié. Mais en effet, pour les accroche-cœurs, non, ça n'est pas le cas.
Eh bien écoutez, merci beaucoup à merci. Tous les deux, Marie Driot et Nicolas Dufetel, d'avoir répondu à nos questions sur le Centre FM. Les accroche-cœurs, évidemment, c'est ce week-end. Les accroche-cœurs, maintenant, ça y est, c'est le petit feu sur la langue. Les accroche-cœurs, évidemment, voilà, Nicolas Dufetel qui nous fait un cœur avec les
sur doigts. L'affiche. Parce qu'on a aussi changé, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, et fait remarquer de ligne éditoriale graphique, il y aura systématiquement un cœur, tout simplement, aux accroche-cœurs.
Voilà, et puis chers auditeurs, auditrices de Radio Campus Angers, prenez-le pour vous, ce cœur fait avec les doigts par Nicolas Dufetel à travers la vitre. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir répondu à nos questions. On se laisse 3 minutes en musique et on revient juste après pour la chronique de Thomas, qui nous parlera donc des câbles sous-marins utilisés par les grandes entreprises de télécom. A tout de suite sur le Centre FM.
That's peace.
second to none. For the push you like me, your last chance. The top your world, girl, oh yes you can. Do the belly dance, one like Shakira. Don't define yourself by your failure. Who will put you up to your criteria? Soon time you gon' cross the barrier. Barrier, barrier. So you have a potential. Do your best and show your talent. Don't be left out right in your area. Soon time you gon' cross the barrier.
Last Chance sur les ondes de Radio Campus de l'artiste Zongo Abongo, évidemment à retrouver dans la programmation musicale de Radio Campus, concoctée comme chaque mois, chaque jour, chaque heure et chaque seconde qui est diffusée sur le Centre FM par notre bien-aimé Étienne Devêche à la programmation musicale. Avec nous dans les studios, on est assez en retard, mais je vous garantis qu'on va prendre le temps pour écouter cette chronique de Thomas, parce que Thomas, qui nous a rejoint donc, va nous parler des enjeux des câbles sous-marins. Salut Thomas.
Salut Hugo.
Et ben alors, vas-y, dis-nous tout, parce que les câbles sous-marins, moi, alors, ça m'intéresse et je sens qu'il y a une petite histoire derrière tout ça. Vas-y, dis-nous tout.
Ah, il y en a plusieurs. Pour débuter cette chronique, commençons par un peu d'histoire. Tiens, Hugo, en quelle année a été mis en service le premier câble sous-marin selon toi ?
Le premier câble, mais
le premier câble.
Le tout premier.
Le
alors,
tout premier.
Peut-être qu'il a... En fait, ça dépend. Est-ce qu'il reliait peut-être la France avec l'Angleterre ou est-ce qu'il a directement traversé
l'océan ? T'as lu la suite.
Mais non, pas du tout. Non, même pas. Comment tu voudrais que je lise la suite ? C'est de l'impro totale, nous. Non,
oui,
je pense qu'il a été mis en place dans les années, je sais pas, dans les années 50 ?
1851.
1850, ah oui, j'avais un siècle de baba, moi.
Alors, bien sûr, à cette époque, ces câbles n'étaient pas destinés, comme aujourd'hui, à alimenter un réseau Internet, mais pour relier par la Manche la France et la Grande-Bretagne, ainsi alimenter un réseau de télégraphes. Bon, aujourd'hui, la situation a un peu changé. On parle de près de 1,3 million de kilomètres répartis entre 420 câbles qui traversent les océans et les mers du monde entier.
Donc, quand même, pour bien se rendre compte de l'étendue de ces réseaux, ça représente presque trois fois la distance Terre-Lune en câble sous-marin. Donc, c'est vraiment zinzin, quoi.
C'est titanesque, effectivement. Un réseau qui ne fait que s'accroître avec l'apparition d'Internet et du réseau à haut débit dans le monde entier. Mais alors, pourquoi je vous en parle aujourd'hui ? Eh bien, il faut savoir que la mise en place de câbles réseau est très chère et très complexe, mais surtout stratégique. Stratégique pour plusieurs raisons. Tout d'abord, le contrôle sur ces câbles permet de pouvoir analyser et filtrer toute recherche ou transmission qui passerait par là. Car oui, quand une personne effectue une recherche sur Internet, celle-ci va parcourir de nombreux serveurs à travers le monde entier en passant par de nombreux câbles sous-marins. Ce qui veut dire qu'une personne, une entité ou un pays détenant la position ainsi que la base où les câbles arrivent peut faire pression sur un pays ou un continent tout en bloquant ses communications.
Non, mais c'est marrant parce qu'en fait j'ai l'impression de comprendre qu'Internet c'est pas que le cloud.
Non, pas du tout.
Oui.
Non. Ce n'est pas Starlink.
Voilà, c'est ça. Il y a du matériel, quoi.
Bien sûr. Donc, le premier point stratégique, c'est l'espionnage. On se rappelle tous de cette histoire d'espionnage entre les États-Unis et les pays européens via un câble sous-marin dans les eaux danoises. La NSA, le service de renseignement Internet aux États-Unis, aurait alors intercepté toutes les communications entre les dirigeants de plusieurs pays. Cela avait fait une véritable polémique car les États-Unis n'ont jamais été considérés comme un ennemi mais un allié pour les pays européens.
C'est quoi le deuxième point stratégique ? Je suppose qu'il y en a deux.
Voire même trois.
Peut-être quatre.
Non. Le deuxième point, c'est la coupure. Par exemple, en 2007, des pêcheurs vietnamiens coupent un câble réseau sous-marin pour en récupérer des matériaux composites et les revendre ensuite. Cependant, les conséquences de cette coupure sont terribles pour le Vietnam, qui a perdu près de 90% de son réseau de communication. Cela a coupé le pays du reste du monde pendant près de 3 semaines.
Et c'est vraiment tout le réseau qui passe par ces câbles sous-marins, c'est pas Starlink, quoi.
Exactement. Et cela va même encore plus loin. C'est même parfois volontaire. En mars 2013, 3 plongeurs égyptiens sont arrêtés près du port d'Alexandrie après avoir essayé de sectionner un câble sous-marin reliant l'Égypte à l'Europe. Et enfin, le 3e point stratégique de ces câbles, c'est le piratage. Alors, cette petite histoire commence en 2022. Et elle commence avec un hacker influent, incertain, Corbin Leo sur Twitter. En 2022, une entreprise va mettre en place un bug bounty. Le principe est simple. Si quelqu'un arrive à trouver une faille de sécurité du réseau d'une entreprise, celle-ci s'engage à lui reverser une prime ou un bounty. D'où le bug bounty.
Mais pas de la friandise.
Non, malheureusement.
Vraiment des millions d'euros, quoi.
Oui, de dollars. C'est ça. Comme vous vous en doutez, cette entreprise contrôle les câbles sous-marins. Corbin Leo. Ah, donc notre hacker va réussir, en raison d'une grosse faille de sécurité dans le réseau de l'entreprise, à se connecter en tant qu'administrateur au service de gestion des câbles sous-marins de cette dernière. Car en arrivant sur la page de connexion au service d'administrateur bloqué par un mot de passe, cela va de soi, celui-ci a reçu un cookie d'authentification à tout le réseau sans même avoir trouvé le mot de passe. C'est comme si devant un coffre-fort, on vous donnait la clé sans même avoir trouvé le code juste parce que vous êtes arrivé devant.
Ah ouais, c'est fou en fait, c'est une immense faille de sécurité, enfin c'est fou.
C'est exactement ça.
En fait ça pourrait être même un bon moyen de faire pression pour un pays que de contrôler les câbles sous-marins.
Tout à fait.
Ah oui, ouf.
D'ailleurs, les emplacements de ces câbles à terre sont souvent bien cachés, voire sous surveillance. Les bases qui récupèrent ces câbles sont d'ailleurs considérées comme des nids d'espions. Mais ne vous inquiétez pas, la France n'est pas en reste. Car il est, comme vous vous en doutez, d'utilité publique que les services de renseignement espionnent les câbles. On appelle ça l'écoute des câbles. En France, l'écoute des câbles est autorisée pour les services de renseignement. Ces câbles, on en compte 9, dont une grande majorité sont du côté de Marseille ou en Bretagne. Et maintenant, vous connaissez tout sur les points stratégiques des câbles sous-marins.
Eh bien, voilà. Écoute, Thomas, merci beaucoup pour cette chronique passionnante. Et j'espère à la semaine prochaine pour qu'on continue à entendre toujours plus d'histoires géopolitiques et géostratégiques. Peut-être. Ou alors on changera et on parlera de recettes de cuisine.
Oh, petit teaser.
Ouais, les crêpes dentelles, t'as capté. Merci beaucoup Thomas pour la chronique. Et le pédalo termine sa traversée sur les ondes de Radio Campus Angers. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci à Thomas pour sa chronique et à nos deux invités de s'être rendus dans notre studio. Nous, on se retrouve dès demain pour vous présenter la nouvelle saison culturelle du Shabada avec leur programmateur Stéphane Martin. En tout cas, d'ici là, n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde.
Une émission à retrouver en podcast sur le www.radiocampusangers.com.